podcast sur Radio U, t'es loin d'avoir tout entendu.
JM Jazz and Blues, bonjour. Bonjour, c'est Bernard à l'antenne, et à l'antenne de Radio U, mais à distance aujourd'hui, puisque je me suis pas déplacé, puisqu'on ne se déplace plus à cause des virus dont vous avez tous entendu parler. Donc, je me suis pas déplacé, j'ai fait l'émission de chez moi et transféré à Radio U. Donc voilà, c'est une émission quand même sur Radio U, c'est une émission de GM Jazz and Blues, et c'est Bernard à l'antenne. Et je vais vous parler aujourd'hui de généralité sur Jazz New Orleans. En fait, c'est divers groupes que l'on écoute, divers groupes assez anciens, puisque l'émission aujourd'hui s'articulera autour de 1927. Et voilà, donc nous allons écouter le premier morceau. Donc, on commence avec l'original Dixieland Jazz Band. L'original Dixieland Jazz Band, avec Jazz écrit avec deux S. Ou bien, ensuite, original Dixieland Jazz Band avec deux Z à partir de 1918, aussi appelé ODJB, est un quintet américain formé de musiciens blancs mené par le cornettiste Nick LaRocca. C'est la première formation à enregistrer, en 1917, un disque de jazz. Originaire de la Nouvelle-Orléans, Nick LaRocca et d'autres anciens musiciens du Papa Jack Lane's Reliance Brass Band s'installent à Chicago en 1916. Là, il joue pendant une saison sous le nom de Stein Dixie Jazz Band, du nom du batteur du groupe à l'époque, Johnny Unta Stein, remplacé peu de temps après par Tonis Barbaro. Et ils partent ensuite pour New York, où ils trouvent des engagements grâce aux recommandations du chanteur et acteur Al Johnson, et commencent à connaître le succès. l'aspect visuel, coulisses du trombone guidé avec le pied, etc., et les gimmicks pittoresques, bruit de klaxon, imitation de bruit d'animaux, passent souvent avant la musicalité. Les musiciens se définissent eux-mêmes, d'ailleurs, comme des untuneful harmonists playing papery melodies. En janvier 1917, le groupe enregistre le morceau Downtown Strutterballs pour le label Columbia. Mais l'enregistrement n'étant pas concluant, les titres ne sont pas édités et les matrices détruites. Au début de la même année, le groupe se produit au Reisen Weber's Restaurant de New York. Le 26 février 1917, l'original Dixieland Jazz Band entre dans l'histoire du jazz en enregistrant pour le label Victor Talking Machine Company, qui est considéré comme le premier disque de jazz, un 78 tours, l'Ivory Stable Blues et Dixieland Jazz Band One Step. Lors de cet enregistrement historique de 1917, joue Nick LaRocca au cornet, Larry Shield à la clarinette, Eddie Edwards au trombone, Henri Ragas au piano et Tony Sbarbaro à la batterie. Le disque est mis sur le marché le 7 mars 1917. Il connaît un énorme succès, se vendant à plus d'un million d'exemplaires. En août de la même année est enregistré Tiger Rag, qui deviendra un standard de jazz. C'est le début d'une éphémère gloire pour l'ODJB, devenu original Dixieland Jazz Band, qui enregistre pour Aeolian, Columbia, 20 titres dans un nouveau tube Soudan, Victor et OK. L'ODJB part pour l'Angleterre, où il se produit pendant plusieurs mois, mars 1919, juillet 1920. Henri Raga étant mort, il est remplacé par J. Russell Robinson au piano. Eddie Edwards, lui, est remplacé par Frank Christian. En 1925, Nick LaRocca, à la suite d'une grave dépression nerveuse, dissout l'orchestre. Nous écoutons Tiger Rag par l'ODJB. Thank you. C'était donc Tiger Rag par l'ODJB. Et on va continuer avec King Oliver. King Oliver, alors c'est Joseph Oliver, dit le King, 1885-1938, est un cornettiste et compositeur américain de jazz, fondateur et chef d'orchestre du Creole Jazz Band. Joseph Nathan Joe King Oliver est né le 11 mai 1885 à Aben, en Louisiane, aux États-Unis. À la Nouvelle-Orléans, Oliver apprend tout d'abord le trombone, puis vers 1908, il se tourne vers le cornet à piston. De 1908 à 1917, il fait partie de divers orchestres comme l'Olympia, l'Onward, le Magnolia, le Melrose, le Eagle, l'Original Superior Orchestra et celui d'Edward Kid Horry qui lui donne son surnom de King. Il monte à Chicago en 1918 pour se joindre à l'ensemble du clarinettiste Lawrence Duke, puis à celui du contrebassiste William Bill Johnson, qu'il reprend en 1920 avant de se diriger vers la Californie, où il passe quelques mois à jouer dans divers établissements de San Francisco. En 1921, il est de retour à Chicago, où il est tout de suite engagé au Lincoln Gardens. Il y restera à la tête de diverses formations jusqu'en 1924. Il a notamment composé Chim Blues, Canal Street Blues et West End Blues. En 1922, il crée son Creole Jazz Band composé de lui-même au cornet, d'Honoré Dutré au trombone, de Johnny Dodds à la clarinette, de Bertie Gosselin au piano, de Bill Johnson à la contrebasse et du frère de Johnny Dodds, Warren Baby Dodds à la batterie. En août de la même année, Oliver fait venir de la Nouvelle-Orléans un jeune cornettiste qui fera beaucoup parler de lui, Louis Armstrong, son protégé, à qui il a prodigé ses conseils et avec qui il grave le 6 avril 1923 ses premières cires. En décembre, Bertha Gonsulin ayant quitté l'ensemble, Oliver la remplace par Liliane Lil Hardin. Cet ensemble de faces du Creole Jazz Band où brillent les frères Dodds est un témoignage irremplaçable du jazz louisianais. Blues, marche, ragtime et compositions originales composent le répertoire. Le style de l'orchestre est inventif et bien émancipé par rapport à ce qui continuait de se jouer à la Nouvelle-Orléans. La fidélité à la polyphonique originale, exposé du thème à la trompette ou au cornet, broderie de la clarinette, jeu du trombone qui par des glissandos souligne les harmonies, n'exclut ni l'invention, intervention de mesures ou qu'on appelle un break joué avec les deux cornets dans les ensembles, ni la mise en avant des solistes, dont Armstrong. Cet ensemble deviendra vite la coqueluche des amateurs de musique haute de Chicago. Il durera, avec quelques atouts, un peu plus d'un an, au cours duquel les musiciens graveront 37 enregistrements, 41 en fait, mais 4 ont été perdus, qui sont aujourd'hui considérés comme étant essentiels à quiconque s'intéresse un tant soit peu au jazz et plus particulièrement au jazz de la Nouvelle-Orléans. Des dissensions au sein de cet orchestre firent qu'au début de 1924, chacun décida de voler de ses propres ailes, Armstrong fondant son propre groupe après avoir épousé Lil Hardin. Les frères Dodds finirent par le suivre à New York, tandis qu'Honoré Dutré continua à jouer dans les différentes formations à Chicago. En 1924, King Oliver enregistra divers duos, dont deux avec Jelly Roll Morton.
Le jazz sur Radio U, t'es loin d'avoir tout entendu.
Nous écoutons King Oliver Creole Jazz Band qui joue Canal Street Blues. Thank you. c'était King Oliver's Creole Jazz Band, Canal Street Blues. Et on va continuer avec Jelly Roll Morton.
Il s'agit donc de Jelly Roll Morton. Jelly Roll Morton, c'est un numéro très particulier, c'est un bonhomme exceptionnel. Nom de scène de Ferdinand Joseph Lamotte, c'est un pianiste et un chanteur de jazz afro-américain, né le 20 octobre 1890 à la Nouvelle-Orléans et mort le 10 juillet 1941 à Los Angeles. D'origine créole et française, de son vrai nom Ferdinand Joseph Lamotte, L-A-M-O-T-H-E, selon le professeur Laurence Gushy, son beau-père s'appelait Mouton, d'où le pseudonyme de Morton. Le Jelly Roll, qui a donné son surnom, est un gâteau roulé comportant une connotation sexuelle, non argotique du vagin. Le Jelly Roll Morton a fait plus que quiconque pour restaurer ce qu'on appelait le jazz entre 1922 et 1930, après les improvisations collectives de King Oliver et un peu avant les éblouissants solos de Louis Armstrong. Sur ses cartes de visite, on pouvait lire « Inventor of Jazz », »,« Inventeur du jazz », Originator of Stomp and Swing, créateur du stomp et du swing. World Greatest Old Tune Writer, le plus grand auteur des morceaux old du monde. Et plus de 60 ans après sa mort, bon nombre de critiques pensent désormais qu'il n'avait peut-être pas tort. Bien sûr, il n'a pas tout inventé, mais il a tout transformé. Il a su, par exemple, prendre le rythme syncopé du rat, comme du rag de Scott Joplin, de James Scott, etc., et en supprimer le côté rigide de la structure pour en faire une musique plus aérée, plus dégagée, ouvrant la voie aux improvisations d'Earl Hines et des grands pianistes qui allaient suivre. De la musique orchestrale collective, il a modifié les ensembles improvisés, a écrit des arrangements préparant le terrain au big band, grand orchestre des années 30. À chacun des musiciens de ces nombreux orchestres, les plus fameux ayant été ces Red Hot Peppers, il laissa libre cours à presque toutes les fantaisies, dégageant l'individu de la masse, pour en arriver au fameux combo qui allait faire fureur à partir de la fin des années 40. Ses compositions ne se comptent plus, et si dans de nombreux enregistrements on ne peut dégager de futures grandes vedettes, on peut cependant affirmer que tous les musiciens qui sont passés par lui n'en ont jamais mieux joué. Il est né en 1895 dans le quartier Storyville de la Nouvelle-Orléans. Selon son certificat de baptême, ses parents étaient F.P. Lamotte, L-A-M-O-T-H-E, et Louise Monette, M-O-N-E-T-E, mais écrit Lemotte, L-E-M-O-T, et Monette, M-O-N-E-T, sur le certificat de baptême. Sa grand-mère, Eulalie Acco, de son vrai nom Eulalie Echo, H-E-C-A-U-D, était sa marraine. Il est établi que vers 1900, il jouait déjà du piano dans les nombreuses maisons closes de l'endroit, sachant interpréter tous les genres de l'époque, du ragtime aux mélodies espagnoles très demandées à ce moment-là. De 1900 à 1920, il aurait voyagé partout, de New York à la Californie, en passant par le Canada, le Kansas, la Floride. On le sait à Chicago en 1912, parce que c'est là qu'il fait enregistrer ses premières compositions. De 1915 à 1920, il aurait vécu à Los Angeles aux côtés des célèbres Spike Brothers. Lorsqu'il arrive à Chicago au début des années 20, c'est un Jelly Roll hautain, dédaigneux, flamboyant, presque exaspérant qui prend la ville d'assaut. Il clame sur tous les toits et que toutes les musiques qu'on y joue ne sont que des pâles imitations de ses nombreux styles. Que c'est lui qui a inventé le jazz, il en donne une date, 1902. Ses vêtements proviennent des plus grands tailleurs, il aime payer ses notes avec des billets de $1000, et à un certain moment, il se fait même poser un diamant à la place d'une incisive. Il est profondément détesté par tous ceux qui le rencontrent, mais en même temps très respecté par sa culture musicale, ses interprétations, sa mémoire prodigieuse impressionnante aux musiciens qui le côtoient. Il joue au billard, aux cartes, il se promène souvent en compagnie de deux femmes car il plaît aux dames. On dit même qu'il aurait été un proxénète aux revues très importantes. Musicalement, à la seule mention de son nom, les salles se remplissent. Il enregistre des rouleaux de piano pneumatiques, d'abord ces rouleaux qui permettaient au piano de jouer tout seul, puis des disques de piano solo. Finalement, il forme son propre groupe pour lequel il compose et crée des arrangements. de 1923 à 1929, il est le musicien des musiciens. Et donc, on va écouter New Orleans Joy par Jelly Roll Morton. Jelly Roll Morton tout seul au piano qui nous jouait New Orleans Joyce. Et donc on va continuer avec Millenberg Joyce mais joué par New Orleans Rhythm King. Alors les New Orleans Rhythm King, c'est un orchestre de jazz créé au milieu des années 1920. Il fut l'un des groupes les plus célèbres de l'époque. L'orchestre était composé de musiciens originaires de la Nouvelle-Orléans et de Chicago. Il a continué à définir le Chicago Jazz et a exercé une grande influence sur la scène musicale émergente de la ville. À l'origine, l'orchestre s'appelle The Friars Society Orchestra, en référence au club Friars Inn. Il change de nom pour New Orleans Rhythm King en 1923 et ce nom a été contracté en NORC. N-O-R-K, le NORC, c'est New Orleans Rhythm King. Au Friars Club, l'orchestre fait sensation devant un public hétéroclite de gangsters, d'hommes d'affaires, de passionnés de jazz. La formation initiale est due à l'association du trompettiste Paul Mares, du tromboniste George Brunis et du clarinettiste Léon Ropolo. Considéré comme le premier soliste de jazz d'envergure à avoir enregistré. Les morceaux sont composés et arrangés par le pianiste Elmer Schobel, dont on dit qu'il était le seul du groupe à savoir lire une partition. Le groupe effectue ses premiers enregistrements en 1922-1923 auprès de Gennett Records, permettant une large diffusion de ce qui allait devenir le Chicago Style Jazz. Influencés par le créole jazz band de King Oliver, ils sont les premiers à avoir effectué en 1923 un enregistrement avec un orchestre composé de musiciens noirs et blancs, par exemple celui de Soaking Blues avec Jerry Roll Morton. L'orchestre est dissous en 1924 quand Paul Mares et Léon Ropolo retournent à New York. Ils jouent brièvement de 1925 à 1935. Et nous allons écouter Millenberg Joyce. Donc, c'était Millenberg Joyce qui était joué par les New Orleans Rhythm Kings, c'est-à-dire NORC. Et on va écouter un petit poulet.
Le jazz sur radio, t'es loin d'avoir tout entendu.
Le prochain morceau est joué par Powers Holly, syncopator harmonie. Powers Holly est un batteur, un chanteur, un chef d'orchestre américain. Né à Louisville dans le Kentucky vers 1890, décédé à Chicago dans l'Illinois le 14 avril 1928. Il travaille comme batteur, chanteur dès le début des années 1910 à Chicago avec le Panama Trio. Il se produit ensuite, 1916-1918, avec le pianiste-compositeur noir canadien Shelton Brooks. En 1920-21, il est membre des Fields Cracker Jack, puis à partir de 1922, dirige ses Harmony King au Dreamland, c'est ce qu'on va écouter, tout en travaillant parfois en soliste ou en duo avec la chanteuse May Alix. De 1926 à mars 1928, il fait partie à l'Apex Club du petit groupe de l'un de ses anciens employés, le clarinettiste Jimmy Noon. Il meurt de complications diabétiques peu après. entend donc les Holy Powers Harmony Syncopator qui joue Play That Thing. Que c'était Holy Powers Syncopator, Harmony Syncopator, pardon, qui jouait Play That Thing. Et puis on va continuer avec Piron's New Orleans Orchestra, qui vont jouer New Orleans Wiggle. Mais Piron, c'est P-I-R-O-N, Piron peut-être. C'est Piron Armand John, violoniste, compositeur et chef d'orchestre américain, né à la Nouvelle-Orléans, en Louisiane, le 16 août 1888 et décédé au même endroit le 17 février 1947. Son père, chef d'orchestre, lui donne une formation musicale, une éducation musicale. Il commence sa carrière en 1904 et dirige son premier orchestre en 1908. Il devient le leader de l'Olympia Band, en 1912. Il joue avec Clarence Williams et fonde avec lui une maison d'édition en 1916. Il joue avec W.C. Handy en 1917, puis avec Oscar Papa Celestin, forme un nouvel orchestre en 1918 et se produit avec lui pendant 10 ans sur, au Tranchina's Restaurant du lac Pontchartrain, ainsi qu'au New Orleans Country Club. Cet excellent orchestre représentatif du style créole néo-orléanais fait un bref séjour au Cotton Club de New York et enregistre à plusieurs reprises entre novembre 1923 et février 1924. Il se produit encore plusieurs années sur les riverboats de la Nouvelle-Orléans. Dans les dernières années de sa vie, il dirige une petite formation dans divers nightclubs. Et donc, on va écouter Pyron's New Orleans Orchestra qui va jouer New Orleans Wiggle. Donc, c'était Pyron's New Orleans Jazz Orchestra qui jouait New Orleans Wiggle. Et donc, on va continuer avec Jimmy DeDroit. Jimmy DeDroit and his New Orleans Jazz Orchestra qui va jouer The Swing. Je n'ai pas trouvé grand-chose sur Johnny DeDroit. Juste la composition du groupe, mais sans précision, Frank Cuny, George Potter, Henry Raymond, Johnny DeDroit, Paul DeDroit, Rudolph Levy et Russ Papalia. Voilà, je n'en sais pas plus, ça date des années 1924. Thank you.
c'était Johnny de droit and his New Orleans Jazz Orchestra qui jouait The Swing.
Le jazz sur Radio U, t'es loin d'avoir tout entendu.
Voici maintenant Johnny Beyerdorfer and his Jazzola Novelty Orchestra. Ils vont nous jouer I Wonder Why My Easy Reader's Riding Now. Je dois dire que j'ai absolument rien trouvé sur Internet ni dans Wikipédia sur ce groupe Johnny Beyerdorfer and his Jazzola Novelty Orchestra. Sauf effectivement un YouTube de ce morceau sans images et sans commentaires sur les musiciens. De même, je n'ai rien trouvé dans le dictionnaire du jazz. Bon, on l'écoute quand même. Donc, Johnny Beyerdorfer and his Jazzola Novelty Orchestra, I Wonder My Easy Rider's Riding Now. C'était Johnny Beyerdorfer and his Jazzola Novelty Orchestra. Et puis maintenant, on va écouter Clarence Williams. Alors, Clarence Williams, on ne va pas présenter Clarence Williams. Hein. Tout le monde connaît Clarence Williams, pianiste, chef d'orchestre, compositeur, éditeur de musique, né à Plaquemine en Louisiane en 1893 et décédé à New York en 1965. Et on va écouter Cake Waking Baby from Home. Thank you. Alors, c'était Clarence William qui jouait Cake Waking Baby Blues from Home. Et on va écouter maintenant Barataria pour terminer l'émission. Je vous souhaite une bonne semaine et à bientôt et un bon confinement. Ne vous ennuyez pas trop, profitez-en pour écouter tous les morceaux de jazz enregistrés sur le site radio-jazz.eu. Sur lequel il y a toutes les émissions que j'ai réalisées depuis 2012. Ça vous fait du temps. Il y a une centaine d'heures d'émissions sur le jazz et sur le jazz New Orleans et sur le jazz des origines. À bientôt. Donc, c'était Barataria, joué par le Halfway House Orchestra, un des groupes de jazz américains, l'un des premiers de l'ère du jazz de la Nouvelle-Orléans, l'un des rares groupes à partir desquels des enregistrements ont été faits à cette époque. Le fondateur de ce groupe, du club Halfway House, était un cornettiste, Albert, dit Abby Brunies, 1900-1978, issu d'une célèbre famille de musiciens de la Nouvelle-Orléans. Il dirige l'orchestre de 1919 à 1928 environ. En 1925, les premiers enregistrements sont réalisés pour le label OK. D'autres musiciens qui ont joué dans cette formation comprennent également sont également membres des Rhythm King qu'on a écouté tout à l'heure, Nork de la Nouvelle-Orléans, tels que Charlie Cordelia, Mickey McCour, Léon Rapolo, Bill Eastwood, Joe Loyacano et Leo Add. En 1928, de nouveaux enregistrements pour Columbia, dans lequel le clarinettiste Sidney Arrodin apparaît comme soliste.
Le jazz sur Radio U, t'es loin d'avoir tout entendu.